Alors ce matin, on va reprendre, mais un peu plus en détail et de manière plus systématique, l'enseignement sur les armes du chrétien. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Oui, merci. Éphésiens 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, ce sont les armes de Dieu. On ne va pas tout lire, je vais juste lire le début du chapitre 6. Le début du chapitre 6, c'est « Au reste, fortifiez-vous » le verset 10, pardon. « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Sinon, tant pis, ça s'affiche quand même. C'est pas parfait. Alors, déjà, une chose importante, c'est que le contexte de ces armes de Dieu, ça se passe dans une manœuvre de défense et pas d'attaque. Et il n'est pas question d'attaquer l'ennemi, il est question de se revêtir des armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça, c'est très important. Rappelez-vous que chaque verset, il faut qu'il soit placé dans son contexte. Sinon, le verset devient un prétexte pour l'idée que nous avons de l'interprétation que nous allons faire du verset. Très souvent, on part sur un verset et on le proclame comme ça, sans le contexte. Ça, c'est une très grave erreur. On peut complètement faire des contresens, c'est-à-dire aller dans le mauvais sens de ce que Dieu veut dire et l'appliquer de manière mauvaise. C'est pour ça que je reprends cet enseignement pour bien le mettre dans le bon sens. Et le bon sens, c'est le verset 12 qui le donne, c'est « Revêtez-vous de toutes les armes pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Voyez-vous ? Donc, déjà, c'est il y a des manœuvres du diable, ça vous le savez, vous en êtes conscient. Mais ces armes sont faites pour, dans le cas où vous êtes attaqué. Et il faut savoir que vous n'êtes pas tout le temps attaqué. Ne rentrez pas dans une paranoïa, ne pensez que tout le temps vous êtes attaqué, parce que sinon, vous donnez au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Vous donnez, c'est pas Dieu, c'est vous. Vous qui donnez au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Ça veut dire que, quelque part, vous n'avez pas la foi en votre Seigneur Jésus-Christ qui est tout puissant. Est-ce qu'il y en a ce matin qui croient que le Seigneur est plus puissant que le diable ? Alors, levez la main. Dites-le devant Dieu. Si vous le croyez, eh bien ne croyez pas son contraire, qui est de croire que le diable a plus de pouvoir que le Seigneur. Vous voyez, c'est simplement de la logique, là. Simplement de la logique. Mais quand on est pris par les émotions, vous savez, la logique, ça passe au deuxième plan. Donc on a peur et on tombe dans le panneau. Donc déjà, ce matin, nous sommes dans la parole de Dieu, nous laissons la parole nous interpeller et il n'est dit que si nous avons des attaques, la première chose, c'est pas tout de suite de penser que le diable a la victoire. Vous voyez, c'est tout de suite venir dans l'esprit en disant que c'est Dieu qui a la victoire. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça, il faut vous le dire. Vous voyez, c'est ça l'identité du chrétien. Quand on parle, voilà, il faut être dans son identité. C'est ça. C'est un peu comme si vous êtes français et vous êtes dans un pays étranger et puis on vous prend pour quelqu'un du Venezuela, de l'Argentine, vous allez dire non. Vous allez sortir votre carte d'identité, je suis français, vous voyez. Donc ça, vous avez le réflexe dans le naturel, mais dans le spirituel, souvent, vous n'avez pas ce réflexe-là. C'est pour ça, à une époque, je ne sais plus en quelle année, avec Yves, on avait fait toute une année sur l'identité du chrétien, et on avait fabriqué des cartes d'identité. Et malheureusement, au Portugal, on m'a volé mon portefeuille, cette carte d'identité est partie, et il faut que je la refasse. C'est une autre carte d'identité où j'avais toutes les instructions de mon identité en Christ. À quel moment je me suis converti, à quel moment j'ai eu le baptême de Saint-Esprit, etc. Voilà. Et que j'ai la vie éternelle. Et une fois, je l'ai présenté au policier qui était un peu... Voilà, non, je me suis trompé. J'avais deux cartes d'identité, une carte éternelle et une carte temporelle. Voilà. Je dis ça pour bien que dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'attaque, vous puissiez avoir ce réflexe qui est martelé ici ce matin dans ce passage. Prenez les armes pour que vous soyez prêts. Ne prenez pas les armes au moment où vous êtes attaqué, prenez-les tout le temps, voyez-vous. Il faut se revêtir des armes de l'esprit. Donc ça, c'est une recommandation. Merci, Sam. Je savais que tu allais réussir. Merci. Voilà. Donc, on va... voilà. Alors, l'idée de ce dessin, c'est vous montrer que la plupart du temps, même les enseignants, et même moi, avant que j'étudie ce passage pour vous ce matin et la semaine dernière, j'avais pris souvent cette arme-là, cette armure-là, vous voyez, cette image du soldat, hein, de Romain. Et elle existe, puisque les soldats romains, c'est comme ça qu'ils attaquaient. C'est comme ça qu'ils attaquaient, c'est comme ça qu'ils attaquaient. Mais c'est plutôt cette image qu'il faut prendre, c'est l'image du soldat romain qui est en position de défense et pas d'attaque. Et vous voyez, comme souvent c'est le cas, il y a une très petite différence entre la vérité et l'erreur. Mais si on reste pas dans la vérité, on peut être dans l'erreur. C'est ça qui est très difficile. Il faut vraiment du discernement. Et si vous êtes dans cette image-là, comme la plupart on est, parce qu'on présente une épée, l'épée de l'esprit, eh bien, on tombe dans les dangers qui aujourd'hui menacent les chrétiens, qui sont beaucoup tombés là-dedans, où on fait du combat spirituel de manière illégitime. Et du coup, on se fait attaquer, on a des combats inutiles, et effectivement, l'ennemi, là, on lui donne des droits. Voilà, donc c'est d'autant plus important d'avoir cette image-là, qui est l'image du soldat romain que Paul avait quand il était en prison. Parce qu'en prison... ils n'étaient pas là pour attaquer les prisonniers, puisque les prisonniers étaient dans leurs cellules, ils étaient là pour les garder. Donc, en tant que garde, eh bien, ils avaient une position de défense, défendre la prison, défendre, etc., contre, etc. Et Paul décrit un soldat romain en position de défense et pas d'attaque. Donc, ce sont des armes défensives et non pas offensif, y compris la parole de Dieu, on y viendra tout à l'heure. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez-vous, donc c'est vraiment une description d'un combat que nous avons toute notre vie, et pas que pour l'ennemi, nous avons un combat contre la chair, contre le monde. Ce matin, on n'évoque que le combat spirituel, mais il y a aussi un combat charnel et un combat culturel. Donc, nous partons de cette position qui va expliquer l'ensemble des armes, qui sont des armes défensives. Prenez toutes les armes. Donc, chaque jour, il faut se revêtir de toutes les armes, pas d'une seule. C'est un habit, c'est une position, c'est un statut que nous devons avoir, le statut du soldat romain, qui est une image, bien sûr, qui n'est juste là que pour nous aider à comprendre les choses. Revêtez-les, nous devons revêtir toutes ces armes. Et Paul utilise des paroles comme résister, comme tenir ferme. Ce militaire n'est pas en train de foncer sur l'ennemi en braillant ou en brandissant une épée, comme là. Mais il est sur la ligne de front et il se place devant l'ennemi. Rappelez-vous que la Bible dit que Dieu place devant nos ennemis une table Il dresse une table. Voyez-vous. Et quand nous sommes en position de combat, nous ne pourrons pas manger. Hein. Mais en position de défense, nous pouvons continuer à manger devant l'ennemi. On peut lui faire face à l'ennemi. Et Dieu dresse une table. Donc nous devons être en même temps en position de défense, mais en même temps en position de goûter les bienfaits de Dieu, de jouir de ses grâces, de jouir de tout ce qu'il nous donne. Vous voyez, il faut être dans cette position de profiter des bénédictions et des grâces de Dieu, et pas tout le temps être dans une position voilà, de défense, de fermer les poings, etc. Non. Mais nous avons ces armes et nous allons voir en quoi elles consistent. La première arme que Paul nous décrit, c'est la ceinture. La ceinture, vous savez qu'à l'époque, les soldats avaient une tunique, hein, ils n'avaient pas des pantalons comme nous. Et cette tunique, eh bien, elle empêchait d'être efficace si les habits n'étaient pas resserrés sur le soldat. Et la tunique, donc la ceinture, avait ce rôle de serrer les habits de manière à être prêt. Donc c'est un envoi, c'est un message pour nous d'être prêt pour le combat. Dans le psaume 51, verset 6, Dieu nous dit « Que la vérité soit au fond du cœur ». La vérité, c'est une façon de vivre. Nous vivons la vérité. C'est la vérité de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à laquelle nous accrochons. Et c'est la vérité qui va nous permettre d'avoir des actes de vérité. La vérité doit être hors du combat dans la vie du chrétien et doit être au cœur de son identité. La vérité est le fondement de la vie chrétienne. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et lorsque Jésus-Christ vit dans notre cœur, eh bien, c'est cette vérité qui est au fond de notre cœur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, il est dit que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. Voyez-vous, cette ceinture qui, au niveau de l'habit du soldat, montre une capacité d'être prêt au combat, alors que sans ceinture, on s'assied, on se repose, on est dans une position de détente. Eh bien, la ceinture, ça rassemble les habits pour être prêt à se défendre. Eh bien, la vérité, c'est ça qui doit être notre stature, notre posture de combat. Tout le temps, la vérité, que ce soit chez vous, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos conjoints, que ce soit à votre travail, que ce soit avec l'administration fiscale ou pas fiscale, peu importe, la vérité et rien que la vérité. Amen. Dis ça à ton voisin, ta voisine. Rien que la vérité soit au fond de ton cœur. C'est très important parce qu'on a tellement, tellement l'habitude. Voilà. Et en plus, c'est les chrétiens jésuites qui ont mis ça au point. Et en disant, la fin justifie les moyens. Vous avez entendu parler de ça? Voilà. Voilà. Donc la fin, le royaume de Dieu, ça justifie le mensonge, c'est ça? Ah oui, mais c'est les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait. Et qu'ils l'ont même institué. On peut même mentir pour la gloire de Dieu. Eh oui, je me rappelle, c'est Marc Adjé qui avait donné ce témoignage à Vaux-sur-Seine, beaucoup marqué mon beau-père. On ment pour la gloire de Dieu, non? Ne cherchez pas à mentir en disant, il y a eu tant de miracles, alors qu'il n'y en a eu que très peu. Vous voyez, on va mentir pour la gloire de Dieu. Non, dites la vérité. Il n'y a pas eu de miracle, ou il y a eu un miracle, mais on a tellement envie de faire grandir l'Église qu'on va mentir. Et que des pasteurs mentent pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez ça? Vous croyez que c'est bon, ça? Voilà, c'est la vérité. Donc, dites la vérité, Dieu n'a pas besoin qu'on exagère ce qu'il fait. Il a fait tout l'univers, il est capable de faire les plus grands miracles, il n'a pas besoin d'en rajouter. Ce qui est vrai, et restons dans le vrai, voilà. Première arme, la vérité. La deuxième, c'est la cuirasse. La cuirasse de la justice. Comme je le disais la dernière fois, l'anglais, le langage anglo-saxon est plus pratique que le français. Bien que le français est juste, mais ça renvoie à des notions plus théoriques. Justice, quand on parle de justice, on pense au principe de justice. L'anglais dit « righteousness », c'est-à-dire l'état de droiture. « Righteousness »,« right »,« right », c'est droit, hein, c'est juste, c'est droit. C'est l'état d'être droit. Ok ? Donc l'état d'être droit, c'est un peu différent de la vérité. Ça découle de la vérité, hein, ça reste toujours la vérité, heureusement. Mais l'état d'être droit, c'est contraire d'être tordu. Hello ? Eh oui, d'être droit. Est tordu. C'est pour ça très souvent, bien sûr, on renvoie cette image du protestant qui est rigide, tout ça, voilà, parce que au début, c'est vrai qu'il était rigide, il est toujours un petit peu, mais par exemple, les Quakers, c'est des chrétiens évangéliques qui sont allés aux États-Unis, qui ont été connus parce qu'ils tremblaient sous l'action du Saint-Esprit, c'était un peu les premiers pentecôtistes, mais ils étaient droits. À tel point que, vous savez, aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu l'Investiture, il faut jurer sur la Bible. Donc, ils ont toujours une Bible, ils choisissent une Bible, voilà, et ils jurent sur la Bible pour être fidèles à la Constitution, fidèles voilà, devant les peuples et citoyens sur la Bible. Eh bien, les Quakers ont dit non, nous, on ne jure pas, la Bible interdit de jurer. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit dans les cours de justice? Ils se sont consultés. Ils ont dit, bon, les Quakers, on les oblige pas à jurer, puisque voilà, leur conscience leur interdit de jurer, mais on sait qu'ils disent toujours la vérité, et ils ont été exempts de jurer sur la Bible, parce que tout le monde reconnaissait qu'ils disaient la vérité. Ça, c'est un témoignage. Parce que même légalement, ils ont pu être absous de cette obligation de jurer. Voyez-vous, ça, c'est un témoignage de droiture, que une chose, c'est ça et pas autre chose. Ça, c'est très difficile aujourd'hui. Par la vérité est difficile, mais alors la droiture, alors là, je vous dis pas, hein, c'est plutôt louvoyant. Eh bien, la Bible dit qu'il faut une droiture, il faut que le droit, la justice, et c'est pour ça que nous, dans l'Église, on a ce principe, clarté, parce qu'il faut d'abord bien clarifier les choses dans tous les domaines, droit, qui donne l'autorité. Et quand il n'y a pas la clarté, mais il y a la confusion, il y a du non-droit, chacun fait ce qu'il veut, c'était le cas des juges. Au cas des juges, eh bien, chacun faisait ce que bon lui semble. Et vous voyez le chaos dans le temps des juges. Vous voyez exactement ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire. Et c'est pour ça que Dieu a permis qu'il y ait un roi. Mais le problème, c'est qu'il a dit, moi, mon idée, c'est pas de vous donner un droit, un roi, puisque le roi, c'est moi. Mais je vous le donne parce que vous le demandez, mais vous allez voir tout ce que vous allez voir avec un roi. Qui va vous imposer des taxes, qui va vous imposer des choses, etc. Voyez-vous, les Israélites n'étaient pas mieux que nous, hein, c'était des humains comme nous. Mais voyez que la droiture sans une obligation, c'est très difficile, et pourtant c'est ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens, d'être droit, de ne pas être tordu. Et c'est pour ça que c'est une vertu que nous devons développer, la droiture, être juste. Sinon, on devient esclave, on devient suzerain, au lieu d'être souverain. On n'est plus souverain. Les chrétiens ont perdu beaucoup de la souveraineté d'être eux-mêmes parce qu'ils ont donné des droits à l'ennemi. Et c'est le principe du torrent qui purifie, que nous faisons, hein, qui montre comment on peut chasser les démons. C'est en reprenant les droits que Dieu nous a donnés. Parce que les droits, on les laisse facilement à l'ennemi, facilement. D'une manière ou d'une autre, ça, je vous renvoie à tout l'enseignement du torrent qui purifie. La cuirasse, elle couvre le cœur. Et le cœur, c'est le centre de la personne. Dans la Bible, quand on parle de cœur, c'est le centre de la personne. Tout ce qui est sa motivation, d'une personne, tout ce qui est au centre de ce qui... Et le cœur est un peu comme un ordinateur, hein, il ne donne que les données qui sont dedans. Il ne peut pas inventer des données. Et notre cœur, il ne va sortir que ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que Jésus donne cet enseignement que ce qui sort du cœur, eh bien, on le voit quand nous sommes un peu pressés, un peu comme Marc Brisebois disait, quand on est stressé, c'est un peu comme un tube de dentifrice, on accroche dessus, on voit ce qu'il y a dedans. Sinon, on ne le voit pas. Et si notre cœur n'est pas dans la droiture, eh bien, on le voit quand on est dans le stress. Et là, on a tendance, eh bien, tout de suite, à bifurquer de la droiture, de toutes ces choses qui vont ensuite après donner des droits à l'ennemi, et on se demande pourquoi on a des difficultés par la suite. Si nous avons failli à la droiture, ben revenons, demandons pardon. Le pardon, c'est là pour cela, pour redresser les choses qui ne sont pas justes dans notre vie. Nos actes dépendent de l'état de nos cœurs. Si notre cœur, au fond de nous, n'est pas voué à cette droiture, eh bien, notre action ne sera pas juste. Gardez votre cœur pur en faisant ce qui est juste. C'est la recommandation de la parole de Dieu. Ensuite, nous avons les chaussures. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Ce sont des chaussures de paix. On n'est pas dans l'action belliqueuse, dans l'action voilà, d'attaquer. On est dans la paix. On doit être des instruments de paix. On doit calmer les choses. Déjà en nous, on doit se calmer quand on est un petit peu énervé. On doit se calmer dans nos relations conjugales. On doit être des instruments de paix. Et la paix, c'est quelque chose qui se décide. On porte les chaussures de la paix et non pas les chaussures de l'excitation, de la querelle, de chercher des noises à droite et à gauche. Okay, ça, c'est notre rôle en tant qu'ambassadeur de ce royaume de paix. Dans Romains, chapitre 5, il nous est dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous sommes amis de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de paix. Il est très intéressant de voir que le soldat est équipé de chaussures qui peuvent aussi servir en temps de paix. Il ne les met pas juste pour la guerre, il les a tout le temps. Mais là, dans notre cas, c'est un soldat qui assure la paix. Il n'y a pas de trêve avec Satan. Ça, c'est clair. Quelque part, Satan veut notre mort. Et il fera tout, en tant que chrétien, particulièrement. Mais ce n'est pas parce qu'il a cette intention qu'il faut avoir peur. Il faut le savoir. Mais nous, le Seigneur a dit, nul ne vous ravira de ma main. C'est toujours la parole de Dieu qui doit être au-dessus de nos peurs, au-dessus de ce que nous craignons. Même si Satan veut notre mort et notre destruction. Et il faut savoir qu'avec le diable, on ne peut pas marchander. Si vous voulez commencer à marchander avec lui, vous êtes perdu d'avance, parce que lui, il a des moyens. Donc, ne cherchez pas à marchander quoi que ce soit, simplement soyez des instruments de paix, point. Vous ne cherchez pas à dire oui, mais dans ce cas-là, moi j'ai raison, dans ce cas-là, ceci, cela, voilà. Vous voulez vous justifier, là vous êtes mal parti, sur le plan spirituel, j'entends. Vous êtes mal parti. Peut-être que vous pouvez avoir une raison dans le domaine physique, mais vous serez perdant sur le plan spirituel, c'est clair. Parce que vous ne répondez pas aux exigences de la parole. Et la parole de Dieu, elle, Dieu sait pourquoi il dit les choses. Un jour, le temps viendra où Satan sera vaincu définitivement. Là, c'est différent. Mais nous ne sommes pas dans ce temps où Satan est vaincu définitivement. Apocalypse 19, verset 11, nous donne une image du retour de Jésus. Et il dit, « Le ciel, je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Et puis, il y aura la paix. Et vous, la paix ne sera établie que lorsque Jésus viendra sur ce cheval blanc qui est le symbole de la fidélité, le symbole de la justice, le symbole de la paix. Et alors là, nous pourrons réellement être dans la paix. Quelqu'un demandait à un président américain qui s'appelait Herbert Hoover comment il s'est défendu face aux critiques et face aux attaques personnelles. Vous pensez qu'il y a des critiques et des attaques sur les politiques? Eh bien, voilà sa réponse. Il dit « J'ai la paix au centre. Je suis dans la paix et je cherche la paix. » Voyez-vous, il ne répondait pas, simplement il restait en paix. Donc les trois armes de Dieu qui s'adressent à notre façon de vivre sont la justice, la droiture et la paix. Les trois armes suivantes, donc ça ce sont trois armes sur notre façon d'être, notre façon de fonctionner, notre façon de nous conduire. Les trois autres armes s'adressent à nos pensées. Vous pensez que les pensées sont importantes? Elles conduisent beaucoup de choses, nos pensées. Bien, la première, c'est notre façon d'exercer la foi. La foi. On va avoir un message bientôt sur la foi, où on va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai juste mis ici... Ah oui, les images ne sont pas géniales. À cause du... Bah, vous pouvez éteindre la lumière, peut-être ça va aider un peu, mais quand il y a le soleil, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir des images claires. Bon, ici, c'est un bouclier romain, au centre, bon, il faut le deviner un peu, mais c'est dommage que ça ne sorte pas mieux. C'est un grand bouclier. En fait, les boucliers gaulois, c'était des boucliers ronds. Hein. Les boucliers romains, c'était grand. Ils protégeaient toute la personne. Quand ils se mettaient derrière, vous ne les voyez plus. Voyez. Donc, le bouclier... est quelque chose qui protège totalement le soldat. Quand il voulait attaquer, il mettait la lance sur le côté hein, pour attaquer. Mais sinon, il était protégé totalement. La foi, c'est quelque chose qui nous protège totalement. Quand nous sommes dans la foi, eh bien, nous sommes en parfaite protection. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le juste vivra par... Nous qui avons été justifiés par le sang de Jésus, par la croix, nous devons vivre par la foi. Alors la foi, c'est un grand domaine, une grande doctrine, qui d'ailleurs a été refondée par les réformateurs il y a 500 ans, et effectivement qui était mise à mal par l'Église d'alors, mais elle est toujours mise à mal hein, aujourd'hui. Et la foi, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense, puisque dans le quadrilatère wesleyen qui est là, eh bien, on voit que la foi est composée d'un certain nombre de choses, d'un quadrilatère, de quatre éléments, mais qu'on détaillera un petit peu plus, là j'ai pas le temps ce matin. Le bouclier de la foi, c'est seulement par la foi, en nous confiant en Dieu, que nous pouvons parer les attaques de Satan. Satan, il nous envoie des flèches. Il nous envoie vous voyez, des choses qui viennent de loin, mais qui vont nous atteindre et qui vont nous faire mal. C'est que par le bouclier de la foi que nous pouvons arrêter les traits enflammés du malin. Et les traits enflammés du malin, souvent, c'est dans nos pensées. Souvent, c'est dans notre personne. Il attaque notre personne, notre être, ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est pour ça que ça blesse tellement fort. Et souvent, c'est les gens que nous aimons le plus, où l'ennemi nous attaque. Mais c'est fait pour. Ne vous étonnez pas si ça vient de votre conjoint, de vos enfants, etc. Mais essayez de ne pas réagir sans arrêt par une réaction. Si vous avez réagi, ben, revenez sur la réaction, corrigez les choses. Mais c'est par la foi que vous arrêtez les traits enflammés du malin. C'est pas... par votre justification, par « j'avais raison ». Vous savez, le « j'avais raison », ça ne fait qu'enflammer les choses, vous le savez. Mais apprenez à utiliser la foi. Dans Jean, chapitre 8, verset 44, il nous est dit que Satan est un menteur, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il professe le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan ne peut que mentir. Et c'est pourquoi ceux qui enseignent la délivrance en demandant aux démons de se nommer, c'est une profonde erreur. Puisque, par définition, les démons, le monde des ténèbres, est menteur. Donc ce n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas procédé comme ça. C'est par le discernement spirituel que vous prenez autorité, parce que Dieu vous a donné l'autorité, et c'est lié aux droits qui ont été donnés. Donc si vous identifiez les droits, vous le chassez, vous n'avez pas besoin de lui demander qui il est. Satan nous ment sur qui est Dieu, il nous ment sur qui nous sommes, il nous ment sur tout un tas de domaines, et ce sont les doutes. Vous avez déjà eu des doutes ? Les doutes qui nous assaillent. Et ce qui est intéressant, c'est que voyez, ceux qui prônent la sagesse humaine, la plus haute sagesse, c'est le doute. C'est là qu'on voit que la sagesse humaine est quand même loin de la vérité. Hein, puisque Descartes, qui est celui qui a fondé le rationalisme, c'est le principe du doute. Plus vous doutez, plus vous trouvez la vérité. Vous voyez, c'est vraiment aux antipodes de la vérité. Parce que c'est vrai que la vérité, elle s'impose en Jésus-Christ. Donc si on n'accepte pas Jésus-Christ, il faut aller à l'autre côté pour douter au maximum pour trouver la vérité. Donc plus on doute, plus on va trouver la vérité. Vous voyez ? Mais nous, parfois, nous doutons de nous-mêmes et tout ça, ce qui est normal parce que nous sommes humains. Mais nous devons, avec le bouclier de la foi, rejeter le doute et proclamer la parole, proclamer la vérité. Jésus, quand il était confronté, il utilisait la parole, les Écritures, il est écrit. Jésus connaissait sa parole, la parole de Dieu. Et déjà à 12 ans, il a confronté les chefs religieux et il est entré dans le temple et il a dit à ses parents naturels, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et il confondait les chefs religieux parce qu'il connaissait sa parole. Et il faut que nous connaissions la parole de Dieu dans les temps que nous vivons pour échapper au doute et de rester dans le doute. Dans Genèse 3, rappelez-vous, la chute, comment elle s'est passée, Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'aime ? Dieu a-t-il réellement dit que tu n'es plus condamné ? Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas te fâcher comme ça ? Dieu a-t-il réellement dit qu'il sera avec toi ? Tu te sens tout seul. Et tous ces doutes qui viennent, eh bien, il faut les arrêter par la parole de Dieu. Amen. On reviendra sur la foi, qui est un message en lui-même, qui montre que la foi, ce n'est pas juste un sentiment. La foi n'est pas juste une doctrine sèche. La foi se saisit de différentes manières. La preuve, c'est que au XVIIe siècle, donc un siècle après la réforme protestante qui a établi la foi, la justification par la foi, Luther, Calvin, tous les réformateurs ont rétabli que la foi n'était pas les œuvres, ce qu'on fait, ont été justifiés par ce que Jésus a fait. Un siècle après, le luthérianisme, enfin les protestants luthériens et calvinistes, eh bien, ils sont pratiquement morts. Enfin, je veux dire, l'Église était dans un état léthargique total, alors que le christianisme catholique a mis beaucoup plus de temps à faire ça. Et pourquoi ? Parce que, en fait, la foi en tant que doctrine de justification par la foi est restée à niveau intellectuel. Et ce sont des pasteurs luthériens qui sont entrés dans le piétisme, alors merci, je sais pas, c'est Charles qui a mis ça là. Voilà, vous avez ici l'histoire de la foi chrétienne à partir de la réforme, hein, 16e, 17e, 16e, où je suis, 17e, 18e, 19e siècle, 20e, 21e siècle qui sont là. Ici, ce sont les piétistes. Les piétistes sont ceux qui ont rajouté à la foi juste intellectuelle de dire que la parole de Dieu dit que nous sommes justifiés par la foi, de rentrer dans la prière. étonnant. La prière, la piété, ce qu'on appelle la piété, c'est-à-dire la lecture de la parole. Parce que à l'époque du XVIe siècle, c'était le pasteur qui, du haut de la chaire, en plus la chaire était en haut pour bien porter, lisait la parole. Et ce qu'on reprochait aux catholiques de ne pas lire la parole, ben, les protestants l'ont refait. Donc en fait, ces protestants-là ont dit, mais non, il faut que chacun de nous lise la parole. Et donc ils ont commencé à éditer davantage les Bibles, de les lire dans les groupes de maison, etc. Ça me paraît étonnant, mais ça c'est l'histoire. Donc vous voyez, la foi aussi s'enracine dans une expérience personnelle. Et la foi de justification intellectuelle plus la foi expérimentale a donné les réveils qui sont ici, les réveils wesleyens, les réveils qu'on a connus, pentecôtistes, etc. Donc vous voyez, dans la foi, il y a plus que simplement de savoir. Hello ? C'est pas juste une formule qu'on récite en disant « je suis justifié par la foi ». Alors, souvent on a une expérience de conversion qui est un ébranlement de tout notre être, et ensuite après on peut revenir à du légalisme qui est doctrinal. Mais il faut dans la foi avoir l'expérience, la tradition et la raison, qui sont les quatre éléments de la foi qui doivent maintenir une foi vivante, une foi authentique, une foi qui peut résister aux assauts de l'ennemi. Ok ? On revoit ça dans un autre contexte, dans un autre message. Mais la foi, c'est un bouclier qui couvre toute la personne. Okay ? C'est pas juste un petit bouclier comme ça, et le reste va nous atteindre. C'est un bouclier qui nous garde et qui nous protège de toutes les attaques de l'ennemi, tous les traits enflammés du malin. L'arme suivante, c'est le casque. Le casque romain. Le casque, qu'est-ce qu'il protège ? Alors, il protège essentiellement la tête, les pensées, notre façon de raisonner, notre façon de comprendre les choses. C'est le casque du salut qui nous est offert par Dieu. Il nous rappelle le pardon du péché, le fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu, et le fait que chaque jour, nous devenons de plus en plus comme Jésus. Si nous suivons, si nous sommes disciples, nous sommes transformés chaque jour dans sa gloire. Le casque du soldat protège sa tête. Et pour la plupart d'entre nous, nous gardons notre cerveau dans notre tête et le siège de la pensée. Vous savez, un chapeau ne pourrait juste qu'apporter de la chaleur, hein, mais le casque nous protège des attaques violentes de l'ennemi. Il y a un ancien proverbe chinois qui dit « semer une pensée et récolter un acte ». Semer un acte et récolter une habitude. Semer une habitude et récolter un caractère. Semer un caractère et vous récoltez un destin. Vous voyez, c'est une progression. Hein, vous savez, tous les proverbes sont liés à l'observation de terrain, simplement humaine, et une certaine sagesse qui est derrière, c'est pas forcément une loi, mais voilà, ça montre certaines choses. Donc, nos pensées sont extrêmement importantes. Satan aimerait bien nous détruire par les pensées. Et Pierre dira que c'est un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Précédemment, nous avons parlé de mensonges. Eh bien, là, il s'attaque à déformer nos pensées. Il s'attaque à notre façon de penser. Et s'il veut nous faire penser de travers, vous pouvez être certain que nous agirons de travers. Là, je renvoie à l'enseignement que je donne dans l'université d'été et d'hiver sur les paradigmes. Vous voyez, paradigme, c'est un mot grec, voilà. C'est pour ça que le français est théorique, hein, que l'anglo-saxon est pratique, parce que nous tirons nos idées du langage grec. Paradigme, c'est dire modèle, un modèle de pensée. Les modèles de pensée sont des choses. On s'accroche à des modèles, ces modèles petit à petit s'imprègnent dans notre pensée. parce qu'ils sont véhiculés par la société, ils sont véhiculés par l'école, ils sont véhiculés par tout un tas de médias. Et petit à petit, un modèle de pensée nous fait réfléchir dans ce modèle-là. Et chaque modèle, il a la puissance d'une cohérence. Il est cohérent. Même s'il est faux, tous les paradigmes sont faux, par nature. Seulement le paradigme de Dieu qui est vrai. Mais nous ne sommes pas encore Dieu. Hein, Dieu ne seront jamais. Nous ne sommes pas encore parfaits. Dans l'éternité, je pense que notre façon de penser sera juste, parce que la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, tous nos paradigmes sont faux. Mais il y en a qui sont plus faux que d'autres. Il y en a qui sont carrément, qui vous envoient dans le mur. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans l'université sur les deux jours. On analyse un petit peu les paradigmes, hein, de la nature, parmi de la puissance, parmi de la raison idéale, ce que même les inconvertis ont compris. Et en comprenant ça, on peut identifier qu'on est dans tel paradigme, dans tel autre. Déjà, ça permet de prendre conscience que nous n'avons pas le bon paradigme. Et que nous pouvons en adopter un autre, qui nous sort du schéma de pensée, qui nous oblige. Vous savez, le paradigme, c'est comme un sillon. Je ne sais pas si vous avez fait de l'agriculture, mais quand vous tracez un sillon avec une charrue, qu'il est profond, ce sillon, et si vous mettez un tout petit peu à côté du sillon, eh ben, vous allez forcément retourner dans le sillon. Parce qu'il y a des forces qui vous entraînent à reprendre le sillon. Si vraiment vous voulez faire un autre sillon, il faut carrément aller un mètre plus loin. Mais sinon, je vous défie, même avec un motoculteur puissant, vous allez reprendre le sillon. Et c'est ça, les modèles que nous avons dans notre tête, qui nous sont injectés par notre héritage, par notre culture, par tout ce que nous avons vécu, par lequel nous avons été élevés, ou dans notre église dans laquelle nous étions, etc., constitue un modèle de pensée qui en soi est juste. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir comme ça. Il faut prendre conscience des erreurs et il faut décider d'en sortir. À condition, c'est un travail. Hein, c'est un travail. Donc les pensées qui doivent être protégées par ce casque, c'est il faut se reprogrammer, si vous voulez. Il faut faire reset. Reset et se reprogrammer. Parce que nous sommes programmés. Et ce logo-là que nous avons fait, qui représente voilà, le symbole de l'Église, c'est un schéma de pensée. Ça, je l'explique dans les universités, hein, où ce modèle de pensée qui donne lieu à la vision, et c'est pour ça que nous sommes la communauté qui interpelle, parce qu'il faut bien comprendre ce logo qui, derrière, véhicule une façon de penser, qui est une façon trinitaire, c'est-à-dire comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit fonctionnent. C'est une communauté. Pourquoi Dieu se révèle de manière trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit? Parce qu'en fait, Dieu a prévu qu'il y ait une communauté, un échange, une communication entre les personnes. Aucune personne ne peut vivre seule. Nous sommes faits pour vivre en communauté. Déjà Dieu, il vit en communauté, puis ensuite avec nous, il a fait un peuple pour que nous vivions en communauté. Et ça, c'est très difficile. Dans le monde d'aujourd'hui, depuis 1968, avec la révolution que vous connaissez, des mœurs, hein, révolution qui a totalement banni les anciens codes, les anciennes façons de penser, mais elle a fait pire, elle a détruit l'autorité, elle a détruit l'institution, elle a détruit toutes les institutions, de manière à ce qu'on puisse devenir libertaire. Et qu'est-ce qu'il est, Macron ? Libertaire. Voyez-vous, on a le président qu'on mérite. Il n'y a pas le choix. Fillon était balayé parce qu'il est conservateur, il voulait garder des valeurs chrétiennes. Et ben, c'est Macron qui a pris la place parce qu'il est libertaire. Il va tout laisser faire. Ah, il va tout laisser faire. Hein. Tous les modes de vie, tous les modes d'action, voilà, c'est fait pour. Mais vous allez voir, dans 5 ans, ça va partir en flèche. Hein. Le libertarianisme, qui est une pensée, qui est un paradigme, voilà, c'est que chacun fasse ce qu'il veut. Et ça, c'est légal, ça devient légal. Ça devient, voilà, vous faites ce que vous voulez. Puis en plus, on vous donne l'autorisation de faire ce que vous voulez. Donc on va demander au Parlement de voter des lois de plus en plus faciles pour que chaque individu puisse devenir Dieu. C'est ça l'idée. C'est revenir à ce que le diable a toujours voulu faire depuis le début et qu'il arrive maintenant à faire. C'est que chacun d'entre vous, eh bien, vous pouvez être Dieu. Voilà. Je suis Dieu. Je fais ce que je veux. Et l'autre, je tape dessus, paf, voilà. Moi, je marche sur les autres. C'est dans cette société qu'on est depuis 68. Ça a été introduit et aujourd'hui, on y va. Mais nous, on veut vivre comme une communauté. Dans cette jungle, l'église d'Aubergenville, ce logo-là, qu'il faut bien sûr expliquer un petit peu, mais qui fonde notre action sur une communauté, sur une vie communautaire, sur des règles communautaires, sur un fonctionnement communautaire, sur des règles qui permettent à chacun de se retrouver dans sa destinée tout en faisant partie de la destinée de la communauté. C'est tout un paradigme qu'il faut expliquer, mais pour que nos pensées soient celles de Dieu, en tout cas le plus proche de celles de Dieu, qui ne sont pas des pensées individualistes, qui ne sont pas des pensées chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un moyen. Jésus, il n'a pas fait ce qu'il veut. Jésus, il a dit, je veux faire ce que le Père a prévu pour moi. Jésus s'est soumis à son Père jusqu'au bout. Il a dit, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, mais non pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Voyez-vous, c'est un exemple d'une communauté où le Père avait la stratégie, le Fils l'a accompli, et le Saint-Esprit a mis la puissance pour l'accomplir et a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voyez-vous, cette communauté qui marche avec un but, avec une idée qui est une idée de construction, une idée d'établissement d'une communauté de paix. Et c'est pour ça que l'Église, qui est appelée épouse, est comparée à un corps avec des membres. Et chacun a une fonction. Moi, j'ai une fonction. Je ne suis pas votre chef. Vous voyez ? Chef, non. C'est vrai que j'ai un rôle particulier, mais vous avez un rôle qui est aussi important que le mien. Chacun a son rôle. Mais si on veut se bagarrer, avoir une compétitivité par rapport à des rôles, effectivement, ça c'est de l'individualisme. Alors que dans la communauté, chacun accepte le rôle de l'autre, qu'il contribue à le faire arriver à son rôle. Moi ce que je veux, c'est que vous entriez dans votre rôle et dans votre fonction au maximum, dans votre destinée au maximum. Okay ? Et je ne serai pas jaloux de quoi que ce soit. Au contraire, c'est une véritable réjouissance de voir que chacun rentre dans ce rôle. Et là, cette communauté va avoir un impact sur le monde qui ne l'a plus. Le monde va vers l'individualisme de plus en plus. Et c'est poussé à ça. Donc si nous faisons la même chose, et nous, le problème, c'est que les paradigmes, les modes de pensée, nous les avons du monde. Et il faut que nous débarrassions de ces façons de penser. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le monde évangélique prend beaucoup plus les pensées du monde que les pensées de la Bible. Donc, soyons réalistes, si nous voulons aller à contre-courant, un poisson qui va à contre-courant, qui n'est pas un poisson mort, eh bien, il faut qu'il se serre les coudes, il faut qu'il se reprenne, il faut qu'il décide de faire autrement, il faut qu'il décide de faire des choix pour que les modes de pensée puissent changer et soient différents. Amen. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et l'autre arme, pardon, je suis allé trop loin là, l'autre arme, c'est l'arme de justement de cette erreur qu'on fait où souvent on présente l'épée. L'épée. Et en fait, ce n'est pas une épée. Chaque soldat avait ici, sur le côté, je ne sais plus de quel côté il le mettait, côté droit, il avait un couteau, une sorte de petite épée, une sorte de dague, hein, qui est plutôt un petit peu incurvée, là, vous voyez. Ça, c'est les anciennes dagues romaines, un petit peu comme ça, qui était assez fine et qui servait au quotidien pour trancher la viande. Vous avez déjà essayé de couper avec un couteau qui ne coupe pas la viande, hein, vous ramez, donc vous l'affûtez pour bien couper. Ah bah, les Romains étaient comme vous, hein, ils étaient pratiques. Donc il y avait un petit couteau qui coupait très bien, très fin, et qui permettait de manger tous les jours, etc. Et à l'occasion, quand un ennemi venait sur eux, c'est-à-dire quand ils étaient au corps à corps, ils se défendaient avec ce couteau, ils le sortaient. Et ils se défendaient, ils attaquaient bien sûr celui qui leur tombait dessus. Donc c'est une arme corps à corps. Dans le grec, c'est cette arme-là qui est décrite. C'est pas l'épée. On la traduit par l'épée, hein. Mais vous voyez, c'est encore une question de paradigme et de façon de voir. Quand on parle l'épée, on voit l'épée. Okay, donc on pense à l'épée. Mais ce qui est grave, c'est que les chrétiens utilisent la Bible, hein, comme une épée, hein, et ils prennent un verset et ils tapent avec ce verset. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est une arme offensive. Ok ? Tu vois ? Eh oui, j'espère que tu fais place avec ta femme. Hein. Je prends une arme, hein, et je dis, ouais, tu sais, il est écrit. Et puis ceci, puis cela. Hein. Souvent, on fait ça aussi au début, hein, de la conversion. Hein. On est tellement fougueux qu'on prend la parole de Dieu, on prend un verset. On ne se rend pas compte que, vous savez, quand on fait ça, il y a trois doigts qui se retournent contre nous. Hein. Donc la personne en face, c'est notre conjoint, il peut utiliser la même chose contre nous. Ça, c'est juger. Okay. Or, pour revenir à notre logo de l'Église, c'est quelque chose qui est formellement interdit dans l'Église ici, de juger. Il n'est pas question de juger. Le jugement, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Ok. Donc, ne vous amusez pas à juger, vous jugez les uns les autres, parce que vous serez repris. Parce qu'ici, on a une personne qui s'occupe de la discipline, justement pour qu'il n'y ait pas de jugement. Et le moindre jugement est condamné. Parce que le jugement détourne et détruit la communauté. Qui es-tu, toi qui juges ? Qui suis-je moi ? Est-ce que moi je peux juger ? Je ne peux pas juger. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos circonstances, je ne connais rien. Et je ne suis pas établi pour juger, je suis établi pour enseigner, pour édifier, pour construire, pour créer des relations, mais pas pour juger. Mais on a tellement l'habitude de juger, et surtout les Français, hein, qui jugent tout le monde, critiquent, tout ça, voilà, que, en fait, ça détruit les communautés. Et pour ça, les communautés ne marchent pas. Parce qu'il y a des jugements sans arrêt. Et le jugement, c'est naturel, hein, ça sort comme ça, tchouf, voilà. Donc tout de suite, il faut arrêter. Non, tu ne juges pas. Tu es un homme, une femme de paix. Tu cherches la paix et tu cherches non pas à juger. Toi qui juges, toi qui fais peut-être pire que l'autre. Voilà. Donc c'est un élément important dans la façon de vivre ensemble. Et le message de cette arme, qui est une arme défensive et pas offensive, cette arme montre que le combat spirituel, stratégique, est absolument interdit dans la Bible. Or, la plupart des chrétiens évangéliques, charismatiques, utilisent Éphésiens 6 pour justifier les armes, le combat spirituel stratégique. En anglais, ça s'appelle the strategic level, le niveau stratégique du combat spirituel. Donc, il y a même une doctrine qui vous explique comment vous devez combattre stratégiquement dans le combat spirituel et qui vous emmène dans ces combats. Alors là, je peux vous dire, le jour où vous faites ça, vous êtes mort. Nous, on a failli mourir comme ça. Hein. Parce qu'ici, on avait une puissance territoriale, spirituelle, dont parle Éphésiens 6 au début, puissance, principauté, domination, etc. Tout ça, ça existe. Mais nous ne sommes pas faits pour ce combat-là. Et ce ne sont pas les épées qu'on doit prendre pour combattre. Nous devons juste nous protéger contre les démons. Les démons, c'est le corps à corps. Les démons, ce ne sont pas des anges du deuxième ciel, c'est des anges du premier ciel. Alors bon, ça renvoie à une doctrine qu'il faut bien comprendre, hein, et je vous renvoie à des livres qui expliquent ça. Les démons, ce sont des anges qui sont en proximité de nous et qui veulent simplement se substituer à nos différents caractères. Caractère, mauvais caractère, mensonge, tout ce qu'on a vu, détournement du droit, etc., la colère, etc., qui veulent amplifier notre caractère pour détruire la communauté, que ce soit individuelle, enfin familiale ou corporelle. Donc ces démons-là, eh bien, Jésus a dit, il faut les chasser. Et donc on utilise cette arme-là pour chasser un démon. C'est-à-dire on dit, au nom de Jésus, tu t'en vas. Et ça, c'est l'enseignement du torrent qui purifie, où on enlève d'abord les droits de nous, on s'occupe de nous, on ne s'occupe pas d'une ville, on ne s'occupe pas d'une cité, on ne s'occupe pas d'une nation, on ne s'occupe pas du monde entier, on s'occupe de nous. Voilà, c'est le combat corps à corps. Et là, il nous est demandé de le faire. Jésus a donné l'ordre aux disciples de chasser les démons. Ça, c'est vrai, mais surtout pas aux puissances territoriales avec l'épée de l'esprit, comme ça, où on proclame, où on marche sur Satan, etc., de ce qu'on a pu entendre, de ce que vous avez pu entendre. Ça, c'est une erreur capitale qui donne plus de droits à l'ennemi encore. Et donc, vous augmentez les problèmes dont vous voulez vous débarrasser. J'ai beaucoup de témoignages à donner là-dessus, mais ce n'est pas le mot. Et je termine avec la dernière arme, qui est l'arme qui est systématique, c'est la prière. La prière, il est dit dans Éphésiens qu'il faut la faire en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc un, c'est tout le temps. Deux, c'est toutes sortes de prières, que ce soit en langue, que ce soit en intelligence, que ce soit en groupe, que ce soit en privé, et pour tous les saints. Donc vous voyez, ce n'est pas que pour moi qu'il faut prier. Dans notre temps de prière, il faut aussi penser aux autres et à ceux avec lesquels Dieu nous a placés. Et pour finir, il faut persévérer. Et c'est pour ça que c'est le thermomètre de l'Église locale, parce que la persévérance, c'est ce qui est le plus dur. Nous pouvons faire des coups dans la prière, nous pouvons faire des choses voilà, qui peuvent faire vraiment bouger les choses dans la prière, mais de persévérer, ça c'est plus dur. Regardez Jésus avec les disciples, vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi. Et nous allons donc bientôt avoir la maison de prière. Ben, j'espère qu'on va prendre l'appel que Dieu nous donne de cette maison de prière, d'essayer de rentrer plus, davantage dans la prière et de persévérer dans la prière, surtout dans les temps qui viennent, dans les temps que nous sommes et dans les temps qui viennent. Sans la prière, nous ne pourrons rien faire. Nous allons perdre nos acquis si nous ne prions pas. Nous avons besoin de prières, et de prières persévérantes, de prières qui déjà nous font changer, parce que dans la prière, c'est nous qui changeons d'abord, parce que nous nous mettons en cause et nous cherchons à connaître la volonté de Dieu. Toute chose se trouve sous la bannière de la guerre spirituelle. Chaque chrétien s'engage dans la bataille face à un ennemi puissant, mais pas écrasant. Ne vous trompez pas, la guerre spirituelle ne consiste pas à marcher dans la ville en criant, en prenant autorité sur toutes les puissances, mais en vivant quotidiennement dans la vérité, dans la justice, dans le pardon, dans le non-jugement. Et nous devons être conscients que c'est la paix de Dieu qui doit être au cœur de nos vies. Nous devons être des instruments de paix. Et nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 5:10. Que le Seigneur nous aide à utiliser toutes les armes et nous revêtir de toutes les armes chaque matin, chaque jour, pour que nous soyons prêts à nous défendre et à vivre dans la paix avec Dieu et avec ceux qui nous entourent pour être des instruments de paix pour sa gloire. Seigneur, nous te prions afin que tu fasses de nous une église, Seigneur, dont tu peux te réjouir. Seigneur, nous voulons être ton plaisir et c'est pour cela que nous voulons être tes disciples et obéir à ta parole. Seigneur, merci pour ces armes qui sont décrites dans ce passage d'Éphésiens. Seigneur, nous sommes incapables de les mettre vraiment en pratique, alors nous te demandons ton aide et ton secours, afin que nous puissions chaque jour, Seigneur, nous revêtir de ces armes pour être prêts quand l'ennemi attaque. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus.